Venu d'Orient, nos histoires, nos vérités.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Venu d'Orient, nos histoires, nos vérités, le podcast qui donne la parole aux personnes issues de la diaspora maghrébine et moyenne-orientale en France. Moi, je m'appelle Naoula Lamouchi, je suis journaliste pour Radio Orient et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai reçu Ella Fekki. Elle est enseignante, professeure de lettres et écrivaine. Elle publie un nouveau roman puissant, Une reine sans royaume, aux éditions J.C. Lattès. Dans ce livre, elle donne vie à Rana Valona III, la dernière reine de Madagascar exilée. Dans cet épisode, on parle également de double culture, de son attachement à la Tunisie, le pays où elle est née et où elle a grandi. On parle de ses voyages à travers le monde et surtout de l'écriture comme un pont entre les mondes et les histoires. Ella Fekki, bonjour.
Bonjour Nawal.
Vous êtes auteur et professeur de lettres, vous êtes née à Tunis et vous vivez en France depuis 2000. Quels sont vos premiers souvenirs liés à la Tunisie et liés à la France et comment est-ce qu'ils ont marqué votre identité ?
Alors, je suis née à Tunis, j'ai grandi à Tunis, j'ai passé toute mon enfance et toute mon adolescence. Donc, mes souvenirs de la Tunisie, c'est essentiellement l'enfance, le fait de baigner dans la culture tunisienne, dans mon quotidien. J'étais aussi scolarisée au lycée français de Tunis, donc je parlais aussi la langue, j'étudiais aussi la littérature française, notamment dans mes années de première L et terminale L. J'ai une mère donc française et un père tunisien, et mes premiers souvenirs liés à la France, c'est aussi les voyages que je faisais l'été avec mes parents, puisque nous allions tous les étés en France, nous prenions le bateau depuis le port de la Goulette à Tunis pour aller jusqu'à Marseille. Et de là, nous remontions en voiture jusqu'à Lille, du côté de Cambrai, où vivaient mes grands-parents maternels.
Et comment vous avez vécu cette arrivée en France ?
Alors, je suis arrivée en France, donc j'avais 18 ans, juste après avoir obtenu mon baccalauréat. Ça a été une arrivée assez difficile au début, même si je la désirais beaucoup. Parce que même si j'étais venue plusieurs fois en France pour les vacances, que je connaissais bien la France, ça restait quand même une nouvelle terre en fait à découvrir dans le quotidien surtout. Et donc venir en vacances et y passer tout son temps, c'est très différent. Il y avait aussi l'arrachement en fait à la terre natale, mais aussi à la famille, hein, puisque je suis l'aînée et que j'étais la première à m'en aller. Et donc forcément, il y a eu un temps d'adaptation qui a duré quelques mois. J'étais en classe préparatoire, c'était aussi très très difficile pour moi parce que j'avais plus du tout le soutien de mes parents au quotidien, même si je pouvais leur téléphoner. Et j'étais passée finalement de l'adolescence, qui est quand même très proche de l'enfance, à presque l'âge adulte en quelques semaines. Donc ça a été assez difficile. Puis le climat, s'adapter à une autre façon de voir le monde, et en même temps j'étais ravie et en même temps assez désorientée.
Et comment est-ce que vous avez réussi à vous adapter ?
Alors, comment j'ai réussi ? Tout simplement, les jours ont passé, je me suis accrochée, en fait, déjà pour les études. J'étais très investie dans mon travail, même si en classe préparatoire, souvent quand on arrive, on n'a quand même pas de très très bonnes notes. Donc, c'était aussi de m'accrocher, continuer à travailler. Je me suis fait des amis. J'étais dans un foyer de jeunes filles, donc au quotidien, j'étais avec des filles un peu du monde entier. Certaines venaient de Côte d'Ivoire, j'avais une de mes amies les plus proches, elle venait de Tahiti. Et le fait de se retrouver les week-ends entre nous, c'était déjà aussi une manière de passer en fait le cap de l'adaptation en fait, à un nouvel environnement. Et c'est vrai que souvent, les week-ends, les étudiantes françaises pouvaient rentrer chez elles. Retrouver leur famille. Et nous, en fait, nous étions entre nous. Donc, on s'est créé une petite famille. Et puis après, les jours ont passé. Et puis un jour, eh bien, les choses se sont complètement stabilisées pour moi. Il a fallu presque une bonne année, je pense, que pour quelle que soit l'adaptation, parce que j'ai beaucoup voyagé ensuite, quel que soit le pays, même quand on décide d'y aller, il faut quand même au moins une année pour se sentir complètement bien.
Et là, Fekki, on va revenir sur votre premier roman, Noces de Jasmin, un roman où vous décrivez de l'intérieur la révolution de Jasmin, donc la révolution tunisienne de 2011, à travers deux personnages, Mehdi et Essia. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre et est-ce que c'était une volonté pour vous de témoigner ou plutôt de comprendre ce qui s'est passé ?
En fait, je vivais en France quand il y a eu la révolution en Tunisie. C'était en 2011. Et donc après, je suis allée vivre à Madagascar. Je suis partie, en fait, j'ai quitté la France en 2014 pour le Sénégal, puis pour Madagascar. Et à Madagascar, je suis arrivée en 2017. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à avoir envie d'écrire un roman en 2018. Et en 2019, l'écriture a démarré en janvier 2019. Et à ce moment-là, ce qui a été le déclic, c'était ce questionnement sur ce qui pousse un peuple à la révolte. Et à ce moment-là, en plus, je suis retombée sur un classeur rouge dans lequel j'avais archivé des coupures de presse, de journaux achetés tous les jours de la révolution. Moi, je vivais à Paris, mes parents étaient en Tunisie, il y avait une censure de la presse. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher des journaux qui parlaient de cela, j'ai tout suivi de très près pour savoir ce qui se passait réellement. J'ai entassé tous ces journaux dans des cartons. Ensuite, un jour, avec l'aide de ma petite sœur, j'ai confectionné un classeur dans lequel j'ai archivé toutes les coupures de presse que j'ai découpées dans les journaux que j'avais achetés. Et je les ai classées par ordre en fait, chronologique, tout simplement. Et j'ai laissé dormir ce classeur pendant des années. Et puis, le jour où j'ai décidé d'écrire, comme je vivais à Madagascar et que la situation donc, était... assez précaire là-bas. J'ai rouvert ce classeur, j'ai partagé le contenu avec j'en ai parlé avec des amis sur place, des amis malgaches. Et puis à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais écrire ce livre. Je vais écrire un roman qui se passe pendant la révolution tunisienne. Et pour moi, le meilleur moyen de rendre compte de ce qui se passait, ce n'était pas forcément d'en faire un roman historique dans le sens où voilà, on est du côté de l'écriture de la grande histoire. Pour moi, il était plus intéressant de passer par des histoires singulières et donc par l'intériorité de personnages qui ne sont pas forcément des héros, à part peut-être le journaliste, mais qui sont des personnages communs et qui racontaient de l'intérieur en fait la révolution au moment même où elle se passait, sans savoir que c'était en train d'enfler au point de devenir une révolution qui pousse à la chute du régime.
Et vous, personnellement, comment vous l'avez vécu de loin ?
C'était une tension permanente. C'est-à-dire que j'étais très habitée par ce qui se passait. J'étais professeure et donc je me souviens que mes copies s'entassaient et que j'étais beaucoup plus préoccupée par ce qui se passait et j'étais plus du tout dans mon quotidien à Paris. J'étais vraiment tous les jours sur les réseaux, j'échangeais avec mes amis... Et j'étais très angoissée aussi. Puis à ce moment-là, on était encore sous le régime de Ben Ali, qui était quand même un régime de dictature. La liberté de presse, c'est pas quelque chose que nous avons connu, en fait. Donc, de voir des choses se relayer sur les réseaux, d'acheter des articles de presse, et en fait, de vivre un événement historique dans un pays dans lequel on n'avait pas le droit, on n'avait pas voix au chapitre, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Enfin... Voilà.
Vous auriez aimé y être à ce moment ?
Oui, j'aurais aimé y être. J'y étais quelques jours avant. J'étais rentrée pour les vacances de décembre. J'étais là pour les fêtes de fin d'année, chez mes parents avec mon frère et ma sœur. Et à ce moment-là, on a entendu dire en fait, qu'il y avait eu l'immolation d'un marchand ambulant. On ne savait pas encore exactement ce qui se passait parce que l'information était muselée. On sentait que quelque chose était en train de se préparer. Et je me souviens que je suis rentrée en France et que j'ai fêté Nouvel An chez des amis et que j'ai dit à l'une de mes amies tunisiennes qui était présente, j'étais en Tunisie et je peux te dire qu'il y a quelque chose qui va se passer d'assez conséquent. Je ne sais pas encore quoi et comment. Et puis ça n'a pas raté, hein, parce qu'en fait en France on n'a pas parlé tout de suite, hein, dans les informations, dans les médias, c'est venu plus tardivement. Et à ce moment-là, quand l'information est parvenue, l'information a circulé en France, c'est vrai que c'était extrêmement angoissant. Voilà. Et j'aurais aimé y être, oui. Et en même temps, c'est ce qu'on dit toujours a posteriori. Je ne sais pas, sur le moment, je ne me suis pas trop posé de questions. Je vivais les choses comme elles arrivaient, en fait. Et en ce moment, c'est exactement ce qui est en train de se passer à Madagascar.
Et qu'est-ce que vous en pensez, justement, de ce qui se passe à Madagascar ? Parce que c'est un pays où vous avez habité.
Dans lequel j'ai écrit Noce de Jasmin.
Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait aussi de voir ces images ?
Et je comprends cette colère. Puisque j'y ai vécu 4 années. Et ça ressemble beaucoup à ce que j'ai pu ressentir, en tout cas, quand les premiers moments, quand j'ai appris, en fait, qu'en Tunisie, il y avait un mouvement de révolte très puissant avec un peuple qui clame haut et fort son envie de dignité.
Et là, vous avez habité dans différents pays. Je vais vous les citer, vous me dites si je me trompe. L'Inde, l'Équateur, le Sénégal, Madagascar. Qu'est-ce que ces expériences, elles vous ont apporté sur le plan humain ?
Une ouverture à d'autres façons de voir le monde. Pour moi, voyager, c'est cela. C'est découvrir, c'est sortir de l'entre-soi, c'est sortir de sa zone de confort. Parce qu'à chaque fois qu'on part, même quand on en a envie, même quand ce n'est pas un départ, c'est des voyages qu'on fait parfois un peu contraints pour des raisons ou d'une autre. Mais même quand on le désire fortement, il y a toujours un moment où on est déstabilisé. Et c'est très intéressant. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait. Ce que j'aime, je pense que je ne peux exister que comme ça. Ça fait des années que je vis comme ça, que je pars, je reviens, je repars, je reviens. C'est-à-dire que chaque voyage a été entrecoupé par un retour en France. Et à chaque fois, je reviens, mais au fond de moi, je sais que je vais repartir. C'est-à-dire, c'est dans ma façon, c'est dans mon mode d'existence aujourd'hui. Je pense que jusqu'à la fin de mes jours, je ne saurais pas exister autrement que de voir d'autres horizons, parce que justement, ça me permet de réfléchir en fait à ce qu'est l'humanité en fait, tout simplement.
Mais vous ne le vivez pas comme un déracinement à chaque départ, comme vous avez par exemple pu le vivre lorsque vous avez quitté la Tunisie?
C'est pas un déracinement, mais c'est à chaque fois une mise à l'épreuve quand même. Parce qu'il y a à la fois l'image que l'on se fait en amont, un peu comme je l'ai vécu pour la France, parce que la France, c'était aussi mon pays, j'y venais en vacances. Il y a l'image qu'on se fabrique mentalement, que l'on façonne intérieurement avant de partir. Et puis après, il y a la réalité. Et il se trouve qu'à chaque fois, on peut être surpris de maintes façons. Ça peut être positivement. Je ne peux pas parler de négatif, mais plutôt d'être désorienté. Parce que être désorienté, c'est très positif aussi pour moi. Et donc, à chaque fois, malgré tout, il y a un temps d'adaptation. Et ça, pour moi, c'est peut-être pas un arrachement, mais c'est quand même à chaque fois une nouvelle expérience de ce que c'est que le déracinement, comme une répétition. Je le prends comme une expérience intéressante et positive, moi, à chaque fois.
On va revenir sur votre nouveau roman, Une reine sans royaume, qui plonge dans l'intimité de Rana Valona III, donc c'est la dernière reine de Madagascar exilée. Le livre, il explore son séjour à Tunis au début du XXe siècle. Donc c'est une réflexion sur le destin, sur la mémoire et sur l'identité. Pourquoi est-ce que vous avez rédigé ce livre ?
Alors, j'ai écrit ce roman-là après mon retour de Madagascar, où j'ai vécu 4 années. J'ai été très touchée, en fait, pendant tout mon séjour par les figures de reines à Madagascar, et notamment deux reines qui sont connues là-bas, mais qui ne sont pas forcément connues ici en France, en fait. Donc, la première reine, Rana Valona Ier, parce qu'elle a repoussé l'envahisseur, et le colonisateur français et anglais, et Rana Valona III, qui était une petite reine fragile, et en même temps, avec une certaine dignité, stature, et qui a beaucoup impressionné toute l'Europe. Hein. Et donc, elle a été, elle, pour le coup, exilée par le général Gallieni, après la Seconde Guerre franco-malgache. Et puis, c'est en rentrant en France, en faisant voyage en Tunisie, que j'ai appris, en discutant avec un journaliste tunisien renommé sur place, que la reine Rana Valona III, en fait, pendant son exil à Alger, avait fait un court séjour à Tunis de quelques semaines. Et il m'a envoyé un petit article de 3-4 lignes là-dessus. J'ai commencé à faire des recherches. Il y avait une photo d'elle dans les champs de course de Ksar Saïd. J'ai commencé à faire des recherches sur sa présence à Tunis. Il n'y avait rien. Au point que je me suis demandé si ça était vraiment venu et si c'était pas plutôt une carte postale d'Alger qu'on a confondu avec une carte postale de Tunis. J'ai été tellement saisie par cette information et passionnée que je m'étais dit que de toute façon j'écrirais avec le peu d'éléments que j'imaginerais son séjour à Tunis, donc que je pourrais aussi en faire vraiment un roman où il y a une fiction. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des recherches sur la Tunisie des Beys. 1900-1916, c'est en fouillant dans la mémoire du pays de la Tunisie que j'ai découvert des femmes assez extraordinaires, les femmes qui ont fondé les premiers salons littéraires de l'Orient, Lella Behrmar, qui était la femme du bey, donc elle, et puis la princesse Nazli, qui était une princesse égyptienne érudite, qui s'est installée en Tunisie. Elles ont donc fondé les premiers salons, plus une grande journaliste reporter de l'époque féministe qui s'appelle Myriam Harry et qui elle a été dans la sélection Goncourt de 1904 puis rejetée parce que femme. Et c'est comme ça que le prix féminin a été créé. Elle a été la première lauréate du prix féminin. Ensuite, elle est allée s'installer en Tunisie comme journaliste. Elle a fréquenté ces femmes des salons. Et c'est en lisant ces livres que je suis tombée sur la preuve que la reine Rana Valona III avait vraiment été à Tunis puisqu'elle y raconte en un court paragraphe sa rencontre avec la reine.
Donc deux livres. Deux liens avec la Tunisie.
Exactement, deux liens. Une plongée dans les soubresauts de la révolution tunisienne et une exploration du monde des années 1900 en Tunisie, en tout cas de souveraine. Ce qui m'intéressait, c'était de redonner de l'épaisseur à ce personnage, une épaisseur romanesque, d'en faire une figure un peu d'héroïne proustienne, et de lui prêter ma voix pour qu'elle puisse se construire un monde intérieur, donc un royaume intérieur aussi. Il y avait aussi cette ambition-là.
Au départ, c'était quoi votre volonté? Vous vouliez plutôt être écrivaine, enseignante, les deux?
Alors, écrivaine, je voulais faire cela quand j'étais petite. Hein. Quand j'étais petite, c'était j'aimais déjà écrire. Et quand on est enfant, il n'y a pas trop de barrières. On se dit, je voudrais faire ça, donc je voulais être écrivaine. Puis après, je pense que je ne me suis pas sentie légitime parce qu'il y a une sacralisation de l'écriture. Je pense que se mettre à écrire, on cherche une forme de légitimité. Et pourquoi? On se dit, pourquoi j'écrirais? Il y a tant de grands auteurs. Est-ce que j'ai la légitimité d'écrire vraiment un roman? Ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est aussi des rencontres. C'est-à-dire que j'ai rencontré une écrivaine malgache qui m'a poussée à l'écriture. J'ai rencontré un écrivain qui était venu en résidence, Maïr Guven, qui était en résidence d'auteur à Madagascar. Et c'est parce que je leur ai montré mes textes et qu'ils m'ont poussée tous les deux à écrire que je me suis mise à écrire aussi, que je me suis dit, allez, j'ai peut-être quelque chose... Voilà, il faut peut-être que j'y aille, puisque ça a toujours été là. J'ai toujours écrit des textes, mais je n'avais jamais osé écrire de romans.
Et lorsque vous étiez plus jeune en Tunisie, vous lisiez quoi?
Je lisais beaucoup de contes, de romans. J'ai toujours lu, depuis toute petite, des albums, jeunesse. Moi, j'ai une mère enseignante qui était professeure des écoles, mais qui aimait lire, dont la passion, grande passion était la lecture. J'ai toujours vu ma mère lire et j'aimais la voir lire. Et je pense que je voulais faire pareil, en fait. Dans la lecture, il y a aussi un effet un peu parfois, soit de rencontre de l'inconnu, soit pour moi, une plongée, parce que je parlais des livres avec ma mère. Voilà. Mon frère ne lit pas, par exemple. Et moi, il est allé vers autre chose. Mais moi, j'aimais ça. J'ai toujours aimé ça. Il y a aussi le fait que ce que j'aimais en Tunisie, c'était aussi toutes les histoires qu'on raconte. Ma grand-mère tunisienne, qui était analphabète, n'a pas été à l'école. Elle ne savait ni lire ni écrire, qui a été mariée à l'âge de 10 ans, qui a eu son premier enfant à l'âge de 13 ans. Et ma grand-mère, par contre, elle aimait bien, hein, raconter des histoires. On était sur la terrasse l'été avec mes cousins, on jouait des instruments, un djeroud, mon cousin jouait djeroud, on chantait, et les chansons, ça raconte quelque chose. C'est toute cette culture un peu de l'oralité aussi que j'aimais. Quand on raconte une anecdote en Tunisie, ça prend toujours des proportions incroyables. On a l'impression qu'un tout petit fait devient une histoire extraordinaire. Et ça... ça m'a toujours plu, en fait. Et on a toujours une histoire à raconter, une blague, une histoire, quelque chose d'incroyable qui est arrivé. Et ça, je pense que c'est aussi culturel. Donc, c'est un mélange des deux, à la fois d'avoir ce côté oriental, parce que j'y vivais et parce que ma famille m'a ancré aussi dans ces traditions-là. Et une mère qui lisait beaucoup, qui m'a toujours poussée à la lecture, et même qui me poussait à la lecture alors qu'elle ne savait pas lire en arabe. Elle m'achetait des livres en arabe parce que j'ai appris à lire et à écrire en arabe dès l'âge de 8 ans. Et pour moi, c'était très, très important de pouvoir lire dans les deux langues, même si il y en a toujours une un peu qui prend le pas et qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne pratique plus assez la lecture littérale pour vraiment me plonger complètement dans un livre. C'est un peu mon regret.
Tout à l'heure, vous parliez de légitimité, en tout cas de problème de légitimité à devenir écrivaine. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi lié à votre statut de femme et à votre statut de femme franco-tunisienne?
Statut de femme, sans doute. Je pense que c'est le lot de beaucoup de, peut-être, de femmes. Chose qu'on ne s'autorise pas toujours. Hein. Bah, en fait, il y a quelque chose d'assez simple à dire. C'est que quand on est à l'école ou au lycée, enfin, c'est plus trop le cas maintenant, ça change, hein, heureusement. Et moi, quand j'étais au lycée, je compte le nombre de femmes que j'ai lues. Parce que tout simplement, les femmes qui écrivaient, c'est pas qu'elles n'existaient pas, mais elles étaient invisibilisées, ou on n'en parlait pas, ou en tout cas, elles étaient empêchées d'écrire, donc parfois elles n'existaient pas, selon certains siècles. Donc, quand on regarde dans une bibliothèque, si vraiment on regarde, il y a essentiellement des hommes dans les classiques. C'est récent, quoi. Enfin, je veux dire, les femmes écrivent. C'est contemporain. Enfin, elles ont toujours écrit, mais qu'elles soient publiées et connues, c'est un phénomène contemporain. Et quand on est au lycée et qu'on étudie que les classiques, et c'était un peu mon cas, j'ai très peu lu de littérature contemporaine parce que je n'avais pas des professeurs à l'époque qui me faisaient lire de la littérature contemporaine. À part Marguerite Duras, que j'ai dû découvrir en terminale et dont j'ai adoré l'écriture, qui est une de mes écrivaines encore aujourd'hui préférées. Madame de Lafayette avec La Princesse de Clèves. J'ai un peu entendu parler de Simone de Beauvoir par mon prof de philo, plutôt. Et Julia Christeva un petit peu, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, après, j'ai essentiellement lu des hommes. À partir de là, je pense que l'inconscient intègre que c'est un métier d'homme. Après, franco-tunisienne, je ne sais pas, je ne sais pas conscient. Par contre, ce que j'ai découvert en arrivant en licence à la Sorbonne, c'était qu'il existait ce qu'on appelle la littérature francophone. Pareil, enfin, j'ai fait 2 années de prépa où j'ai travaillé sur Ronsard, Rabelais, etc. Donc, dans la continuité du lycée, très peu de contemporains. Puis j'arrive en licence à la Sorbonne et là, je vois qu'il existe un module de littérature francophone. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de Césaire. Et puis ensuite, après Césaire, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, du coup, maghrébine d'expression française. Et c'est comme ça que j'ai découvert Kateb Yassine, Driss Schreiby, enfin tous les grands auteurs, Mouloud Feraoun et puis surtout Albert Memmi en Tunisie, dont je n'avais, paradoxe, jamais entendu parler de toute mon adolescence, alors que c'est un des plus grands auteurs tunisiens ayant écrit en français. Je pense qu'à partir de là, on intègre petit à petit que tout est possible.
Et là, votre double culture, elle vous permet aussi de nourrir vos récits. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que c'est une richesse ?
Oui. Pour moi, la double culture, c'est une grande richesse. Pourquoi ? Parce que bon, ça nourrit certes des récits, mais surtout, j'arrive à me mettre à la place de l'autre. On est toujours soi-même et un autre quand on est dans une double culture, parce que bon, déjà, on n'est jamais tout à fait accepté dans l'un ou l'autre pays, mais pas au sens négatif. Hein. Parfois, c'est maladroit. Hein. C'est pas forcément « j'en veux à personne ». En fait, j'ai aucune remontrance personnelle pour qui que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment où, en France, vous êtes la Tunisienne. On me pose souvent la question de savoir ce que ça fait d'écrire en français. Moi, ma mère est française, donc j'ai toujours écrit en français. Enfin, ça fait partie de ma culture. Et quand je suis en Tunisie, je suis la française. En France, je suis la fille mate de peau, parce que j'ai une peau qui voilà, bronze au soleil. Mais en Tunisie, comme j'ai les cheveux clairs naturellement, je précise, souvent on me demande aussi si je me fais des couleurs. Non, j'ai une mère blonde, blonde, aux yeux bleus, avec la peau blanche, blanche, et un père très brun, avec la peau très mate et les cheveux très noirs. Et à chaque fois, en Tunisie, je suis la blonde. Ce n'est pas du tout le cas en France. Ça c'est assez, assez drôle, en fait. Quand j'étais au Sénégal, j'étais la sœur. La nar. La nar, c'est aussi la mort, M-A-U-R-E. Parce qu'ils voyaient bien que j'avais quand même une peau. Enfin, plus au Sénégal, j'avais tout le temps la peau mate. À Madagascar, j'étais la blanche. Et à chaque fois que je vais dans un pays, je suis toujours encore autre chose et encore autre chose. Quand j'étais en Inde, je me suis fait percer le nez, poussé par mes élèves. J'étais habillée toujours en tenue indienne. Et parfois, on me prenait pour une indienne du nord de l'Inde où la peau est beaucoup plus claire. Donc, quand j'étais dans le sud de l'Inde, les Indiens pensaient que j'étais indienne. Et ça, c'était intéressant aussi pour moi. Et à chaque fois, il y a eu des moments comme ça où je me suis dit déjà juste par mon physique, en fait, à chaque fois, je suis toujours complètement autre chose que, en fait, ce que je suis vraiment, c'est-à-dire franco-tunisienne. Et en même temps, est-ce que je suis franco-tunisienne aujourd'hui après tous ces voyages ? J'appars du principe qu'une identité n'est pas figée, qu'une identité, elle se façonne au contact d'autres cultures et que c'est ce qui est intéressant, qu'il n'y a rien de statique. C'est-à-dire qu'une identité, même un Français qui voyage, n'est plus Français au bout d'un moment. Il a adopté d'autres modes de vie, d'autres points de vue, d'autres... C'est pour ça que pour moi, le voyage, c'est très important. D'autres façons de vivre, et puis et son identité, elle a évolué, elle s'est façonnée au contact d'autres cultures.
Et c'est ce que vous montrez aussi en faisant des liens, comme avec votre dernier livre, sur Madagascar.
Et exact. C'est ça. Pour moi, tous ces romans-là, c'est aussi une façon de dire il y a une singularité, en fait, chez chaque personne, en fait, et dans chaque rencontre, et dans chaque... Et cette reine... À un moment donné, c'est plus la reine, dernière reine de Madagascar, mais la dernière reine malgache, elle devient autre chose, en fait. C'est la femme exilée, certes, mais pas que non plus. D'où, en fait, c'est toute cette histoire que j'invente autour d'elle. Pour moi, ce que c'est, en fait, la richesse d'une double culture. Et c'est aussi arriver à se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire aussi de se dire, tiens, ça se fait ou ça se fait pas, ça se dit. Et quand on voyage beaucoup, je pense qu'au bout d'un moment, on saisit très vite les codes. On se dit, non, ça ne se fait pas ici. Donc, il ne faut pas que je le fasse. Ou, tiens, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Je vais essayer de comprendre parce que je ne veux pas froisser, en fait, les us et coutumes. Voilà. Et ça, pour moi, ça c'est primordial. Je crois que la double culture, c'est une aide pour ça. Mais que toute personne qui voyage au bout d'un moment, ou rencontre d'autres personnes, même en restant chez soi, d'autres cultures, hein, ça peut se faire comme ça, le voyage aussi. C'est une richesse, une introspection et une intelligence aussi de la vie.
Si vous avez un conseil ou des conseils à donner à une jeune femme, à une jeune fille qui souhaiterait écrire.
Moi, je crois à deux choses. Il faut y croire. Déjà, c'est la première chose. Il faut travailler. L'écriture, on dit souvent, ouais, t'as du talent, c'est un don. Non, l'écriture, c'est aussi du travail, beaucoup de travail. C'est une régularité. Et donc, quand on a envie d'écrire, faut écrire, tout simplement, en fait. Il faut s'y mettre.
Venu d'Orient, nos histoires, nos vérités.